Comme je l'annonçais au début de cette émission, j'ai la joie de recevoir maintenant Éric d'Outrebande, qui est connu des auditeurs de Radio Courtoisie, mais pas tout à fait pour la même raison que celle qui le fait venir aujourd'hui. On vous connaît plutôt pour Tiepolo, c'est-à-dire la finance malgré tout. Et là, vous allez nous parler de musique, vous allez parler du chanoine Roussel. Mais ce qui m'intrigue, c'est que vous qui êtes dans la finance, et j'ai souvenir des entretiens que vous avez eus avec Dominique Paoli en particulier, qui vous demandait des conseils en pleine crise. Pourquoi avez-vous donné à votre maison le nom d'un peintre? Ce n'est pas un hasard, j'imagine.
Parce que, d'abord, bonjour, cher monsieur l'abbé, bonjour, chers auditeurs. Et parce qu'on est un peu artiste dans la famille, et Tiepolo, ce n'est pas un peintre très connu en France, mais c'est un peintre où vous avez des plafonds à Jacquemart-André que vous pouvez tous voir. Et si vous avez le bonheur d'aller à Venise, alors pour voir les plafonds, mais aussi pour écouter du Vivaldi, ce qui pourrait être la transition avec le chanoine Roussel.
Parfait. Alors le chanoine Roussel, lui, c'était Versailles et Port-Marly. Vous-même, vous l'avez connu personnellement, est-ce qu'il vous a fait chanter?
Alors j'ai eu la chance de quitter ma paroisse quand j'avais 7 ans, donc avant le bouleversement liturgique de 69, grâce à un fils de Louis Salron, et grâce aussi au père de Chivray qui était dans les orbites familiales. Et on est arrivé pour Pâques 67, donc j'avais 7 ans, et j'ai eu la chance de commencer à chanter à 12 ans. Je portais la sacoche du chanoine Roussel à Lourdes pendant les pèlerinages, et donc évidemment j'avais des frères et sœurs qui chantaient, et on a eu la chance d'avoir cette résistance du chanoine Roussel dès mon plus jeune âge, mais j'avais des frères et sœurs qui étaient plus âgés que moi. Donc, mais surtout je remercie mes chers parents, qui sont maintenant, je l'espère, au ciel et qui vont pouvoir assister à cette messe au château de Versailles, puisque c'est l'objet de l'interview d'aujourd'hui.
Voilà. Alors il faut dire ce qu'il y avait d'extraordinaire. Bien sûr, il était curé de Port-Marly et il avait, grâce à ses relations, obtenu l'autorisation de pouvoir dire la messe à la chapelle du château de Versailles. Moi, j'y ai assisté, c'était unique. Il y avait un monde fou. Il fallait même qu'il poursuive la célébration de la messe alors que la communion n'était pas terminée, parce que le temps imparti était quand même très limité, et il donnait sa bénédiction, il y avait encore des gens qui communiaient.
Oui, c'est une période assez extraordinaire, puisqu'on chantait souvent la messe tous les dimanches à Port-Marly. On commençait par Port-Marly et souvent on allait chanter une deuxième messe au château de Versailles. Et au château de Versailles, le nombre de gens que je connais et qui me disent « Ah, mon père a été au château de Versailles à la messe, ou ma vieille tante ». Donc ça a été vraiment... Chanoine Roussel est un prêtre qui est haut en couleur, qui est un musicien de talent, qui a été un résistant aussi bien sur les aspects politiques que les aspects religieux. Et la chance qu'on a eue de le connaître, c'est qu'il a permis à toute une génération, je pense, de familles de tenir le coup. Et aussi, il a permis de former beaucoup de prêtres, puisque vous qui êtes prêtre de la Fraternité Sapidis, le feu abbé Bonneterre, c'est un enfant de Port-Marly, il était grand cérémoniaire, donc il avait à peu près l'âge de mes frères aînés. Donc l'abbé Boubet, qui est maintenant dans le coin de Versailles, eh bien, c'est aussi un enfant de Port-Marly. L'abbé Bilcock, qui s'occupe de la maîtrise de la musique à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Alors ses parents... Donc sa mère et son père, malheureusement décédés, mais sa mère, toujours vivante, elle les chantait aussi à Port-Marly. Et le père de la mère, donc de l'abbé Bilcock, lui dirigeait la foule. Donc, et alors diriger la foule, dans nos milieux, ça ne se faisait pas obligatoirement. Mais parce qu'il y avait une volonté d'un élan liturgique et de conserver ce que Jean Roussel avait reçu avec beaucoup d'ardeur. Mais il a été vraiment un des résistants, alors pas au mauvais sens du terme, excusez-moi, parce que vous voyez dans quel sens, pas dans ce sens-là, dans le sens de la transmission, et aussi un passionné de la foi, de la transmission de la foi, avec toujours un peu beaucoup de charité, mais avec beaucoup de tempérament, et avec plein d'espérance, puisqu'il a permis on voit les effets de Port-Marly et du château de Versailles, en fait, dans toute la région parisienne. Quand on allait chanter chez son ami qui était à Garges-lès-Gonesse, c'était extraordinaire. Quand on descendait dans le sud, il avait des amis un petit peu dans la France entière. Et tous ces prêtres-là sont été ses amis. Et ces prêtres-là, dans les différents départements de France, ont été des points de conservation de la foi catholique, de aussi la transmission de la messe dite de Saint-Pierre, alors que maintenant il n'est plus extraordinaire, maintenant je crois que le nouveau terme c'est la messe de Saint-Jean 23. Donc les choses changent, mais le plus important c'est que les textes liturgiques restent, et donc c'est vraiment important d'avoir donc Jean Roussel, c'est vraiment un homme extraordinaire.
Et là vous évoquez un peu une génération de prêtres dont il faut rappeler que si elle n'avait pas été, les prêtres de la fraternité Saint-Pilice ne seraient pas. Là, vous disiez le chemin de Roussel. Son ami à Garges-lès-Gonesse, c'était l'abbé Le Père de Rel, qui avait une brochette de décoration extraordinaire.
Comme le chemin de Roussel.
Combattant. Et il forçait le respect à Garges-lès-Gonesse. Ce n'était pas le Port Marly. C'était un maire communiste depuis 50 ans. Mais devant la brochette que pouvait mettre sur le revers de sa soutane, le maire communiste, le pépone local, s'inclinait devant le père de Rel, qui était un peu Don Camillo lui aussi. Et il avait une chorale où il y avait à peu près 30, 40 nationalités, parce que c'est un pays assez haut en couleurs, vous voyez ce que je veux dire. Et tout ça faisait très bon ménage, parce qu'on était entre catholiques, et qu'ils avaient la même foi. Et alors il y avait effectivement des Asiatiques, des Africains, tout le monde était là. Moi j'ai assisté, mais comme vous disiez, c'était des prêtres qui avaient du caractère. Pas nécessairement bon, mais du caractère.
Il y a du tempérament, et vous parliez de la multitude à Garges-lès-Gonesse. Il y avait aussi une multitude dans les différentes messes à l'époque. Et au château de Versailles, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait des gens qui arrivaient de n'importe quel pays et qui s'arrêtaient le dimanche à 11h pour cette messe à la chapelle du château de Versailles. Et je crois que c'est vraiment très dommage qu'il n'y ait plus cette messe tous les dimanches à 11h, parce que la messe le soir, c'est quand même pas idéal dans la vie d'un normal d'un catholique. On commence par honorer le bon Dieu le matin, sauf exception. Mais au château de Versailles, il y avait un aspect apostolique extraordinaire. Vous aviez des étrangers qui, au lieu d'aller visiter telle galerie, ils restaient, ils assistaient à la messe, et c'était un mouvement extraordinaire d'apostolat. Alors cette messe, elle est maintenue une fois par mois. Là, on arrive tous les 5 ans grâce à un travail d'équipe, parce qu'un homme seul est un homme mort, vous connaissez ma théorie. Et donc grâce à Michel Lefebvre qui dirige la chorale de Notre-Dame des Armées et le chœur jubilaté, grâce au chef de chœur de l'Immaculée Conception, grâce à Jean-Baptiste Vrillon qui dirige maintenant la chorale de Port-Marly, et votre serviteur.
Et grâce à vous qui êtes à la Consolation.
Et je suis là, on chante à la Consolation, on répète surtout tous les mercredis soirs à 20h15. Donc si vous voulez venir chanter avec le chœur Frangelico, vous pouvez toujours venir.
23 rue Jean Goujon. Toujours des peintres, hein. Tiepolo, Frangelico, c'est.
Ah oui, ben c'est, voilà, faut garder ce fil conducteur. Donc là, on a la chance de fêter les 35 ans du décès du chanoine Roussel, un peu en retard, puisqu'on a 2 ans de retard, mais c'est grâce au Covid. Ou à cause, je ne sais plus dans quel sens il faut dire ça. Et donc on fête les 35 ans avec 2 ans de retard, on réunit des choristes, on réunit aussi des vieux choristes du chanoine Roussel, donc on ne sait pas, on sait jamais très bien combien on est. Il y a une répétition le jeudi 1er à Notre-Dame des Armées, on sera peut-être 60, 50, 80, et c'est toujours extraordinaire parce qu'il y a un élan, et je pense que du haut du ciel, le chanoine Roussel est présent. Alors il est à l'orgue, bon, là ça sera un des titulaires qui sera là. Et puis, évidemment, la direction musicale, on se répartit ça en bonne intelligence entre musiciens, et on est là pour servir, et surtout pour faire prier et honorer la mémoire de chanoine Roussel, mais aussi, c'est très important, surtout dans les circonstances actuelles, que la messe dite de Saint-Pie V, bah, une fois, alors ça serait bien que ça soit une fois tous les dimanches, ou une fois par mois, mais déjà, prenons les petits moments de grâce que la Providence nous permet. Et si, une fois tous les 5 ans, il y a cette messe dans l'ancien rite qui dit chanoine Roussel, je pense que c'est vraiment important par rapport à toute l'histoire, je dirais, catholique française.
Vous maintenez, vous ne voulez pas laisser la place vide.
Oh, il n'y a pas de place vide. Le plus important, c'est qu'on puisse honorer la mémoire du chanoine Roussel. Et ça se fait en bonne intelligence avec le père Boulle, qui est vicaire général et qui dira la messe dans l'ancien rite, comme ça a toujours été fait depuis qu'avec Michel, depuis 35 ans, nous essayons de transmettre ce que nous avons reçu.
Et alors, vous parliez du chanoine tenant les orgues, c'est ce qu'il faisait. Et alors c'était impressionnant parce qu'à Port-Marly, l'orgue était derrière l'autel, et si je me souviens bien, parce qu'il était patriote, entouré de drapeaux français.
Oui, alors il y avait des drapeaux français, c'est vrai. Il y avait aussi un grand drapeau du Sacré-Cœur. L'orgue a été déplacé il y a quelques années. Alors c'est une bonne idée sur les aspects liturgiques, parce que le chœur est quand même plus adapté à cela. Mais l'orgue de Port-Marly est en souffrance, puisque l'église de Port-Marly, on a mis beaucoup de temps avant d'avoir la restauration extérieure, qui avait déjà été faite dans les 70 grâce aux dons des fidèles. Donc il y a, quand vous rentrez à Port-Marly à droite, il y a un petit panneau, Chanoine Roussel avait écrit de sa main, qu'il remerciait tous ces paroissiens qui avaient permis la première rénovation de l'église. Et là, il faudrait faire l'intérieur de l'église, mais c'est encore un petit peu long, mais j'espère que grâce au ciel, on pourra à nouveau avoir un orgue qui sonne, puisque là, le chanoine Roussel est un peu au purgatoire quand il doit regarder son orgue. Donc, vous avez compris que... Mais le plus important, c'est d'avancer et surtout de maintenir, puisque la messe à Port-Marly reste dans le rite qui a été celui que le chanoine Roussel nous a transmis, et c'est ça qui est assez extraordinaire.
Quel était le répertoire de prédilection du chanoine Roussel ?
Alors, il a été très passionné par la musique versaillaise du XVIIe et XVIIIe siècle. Il a été un précurseur par rapport aux baroqueux que nous connaissons, les William Christie, les Minkowski, tous ces gens-là. Il était précurseur, il aimait bien aller travailler à la bibliothèque de Versailles, retranscrire des partitions. Donc c'était aussi bien du Lully, du Campras, du Michel-Richard de Hollande, du Charpentier. Donc il y avait cette partie-là qui est vraiment mise à l'honneur le dimanche 4 décembre à 17h30 à Chapelle du Château de Versailles, puisque nous chanterons le Pancilingua de Michel-Richard de Lalande à la communion. Nous chanterons le Te Omnes Angeli de Michel-Richard de Lalande à l'offertoire, et nous chanterons un motet de Mondonville à la sortie. Mais évidemment, tout ça, ça enchasse une des messes qui est assez star du chanoine Roussel, que des gens m'ont évoqué alors qu'ils habitaient Libreville, ils habitaient un petit peu dans l'Europe, dans le monde entier. C'est la messe 8, donc la fameuse messe des anges, mais qui est alternée avec une polyphonie de Roussel. Et je pense que c'est... Je suis allé chanter avec la famille Mathieu au pèlerinage de Lourdes fin octobre, à Lourdes, et j'ai été surpris de voir que les Mathieu connaissent très bien le répertoire de Roussel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une transmission. Mathieu sont plutôt Marseille et Toulouse, mais chanoine Roussel est présent toujours par rapport à ces... Alors, il y a le répertoire de la musique française. Il avait aussi beaucoup insisté sur les offertoires de Franck. Donc, tout le monde connaît le Dextera Domini qu'on a chanté sur les premiers pèlerinages en 83. Donc les César Franck, et puis après il avait l'amour de la liturgie avec la foule, mais pas avec la foule qui remplace la chorale, ou pas la foule qui remplace le prêtre, je schématise un peu. C'est la foule qui permet d'avoir une alternance et un juste équilibre entre l'orgue, le chant populaire, le grégorien, voire plein chant, et la polyphonie. Et c'est cette harmonie qui donnait un souffle quand Chanoine Roussel dirigeait. Et cela a permis, je pense, beaucoup de vocations à beaucoup de familles de pouvoir transmettre la foi et de faire des générations de gens qui ont connu Port-Marly, qui ont connu le château de Versailles. Donc c'est vraiment un hommage à toute cette œuvre que nous sommes très attachés avec Michel Lefebvre, mais maintenant avec d'autres et plus jeunes. Donc on espère avec Michel que les...
Donc il y a effectivement une transmission, comme vous dites, ça c'est la continuité dans le temps. Donc la tradition est pérenne. Et puis il y a aussi cette extension. Vous faisiez allusion tout à l'heure, moi, avec l'abbé Le Père de Rey, je lui dis, mais oui, il y avait toutes les nationalités dans sa paroisse, dans sa chorale en particulier. Et vous vous dites, à plus forte raison, au château de Versailles. Mais pourquoi ? Parce que la langue liturgique, c'est le latin, c'est universel. C'était pas du japonais, c'était pas du swahili, c'était la langue de l'Église catholique romaine.
Mais c'était nettement plus facile qu'aujourd'hui. Donc voilà. Mais je pense que il y a aussi toute la musique religieuse qui est quand même essentiellement écrite en latin. Alors, il faut pas être puriste non plus, parce que même s'il y a des réformes de Saint-Pédis sur les textes liturgiques, parce que dans les églises au 19e, il y a eu un petit dérapage, il y avait un peu trop d'aspects de genre opéra. Il y a aussi des rubriques qui ont été, des textes qui ont été faits sous Pie XII. Mais ce qu'il faut, c'est un juste équilibre entre tout. Et donc, ce qui m'agace toujours, c'est par exemple, aujourd'hui, même dans les milieux dits de tradition, donc les milieux catholiques, quand on nous sort des chants, alors c'est plus des chants, des chansonnettes que Charles Roussel, il avait horreur des chansonnettes qui venaient du centre de pastoral liturgique de l'époque.
Et donc, les Gélinettes.
Les Gélinettes. Alors, je suis désolé pour certains membres de la famille Gélinot, mais les Gélinettes.
Ils sont pas parents, paraît-il.
Ils sont pas parents. Mais il y a quand même un chant qui est chanté, qui s'appelle Âme du Christ, et donc il n'était pas contre tout, mais les paroles entre 70 et je dirais presque il y a 15 ans, beaucoup de paroles de chants populaires étaient assez déplorables. Mais là, il y a une tendance à chanter beaucoup de chants de l'Emmanuel. Alors, les textes sont de qualité, mais il y a des problèmes de rythme. Donc, même dans les mariages dits traditionnalistes, on se retrouve avec maintenant des chants, on a l'impression de se retrouver en 1970. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait un peu un sursaut. Et je dis ça aussi bien aux chercheurs que les ecclésiastiques, parce qu'il faudrait que les ecclésiastiques contrôlent un petit peu avant les mariages les programmes des chants. On s'aperçoit aussi maintenant, de temps en temps, il y a des mariages où il n'y a plus ni introïte, ni Eloïa, ni communion. Donc je crois qu'il faut aussi pas s'endormir et continuer à garder des règles qui sont des règles immuables. On n'est pas dans un séminaire, donc on ne peut pas chanter tout le grégorien. On n'est pas dans une salle d'opéra, donc on ne va pas chanter que de la polyphonie. Et on n'est pas dans une messe tenue par des laïcs où on ne chante que de la chansonnette, même si les paroles, certaines nouveaux chants sont... Voilà, donc j'insiste sur cet aspect-là, parce que c'était aussi l'apport du Charles Roussel, c'est d'harmoniser des chants populaires avec de la polyphonie, avec des voix, avec des secondes voix au-dessus. Donc tout à l'heure, je pense qu'on mettra un petit peu le Chénus sur les Rennes. Bon, il y a eu plein d'éléments de chants polyphoniques faits à partir de chants populaires.
Alors justement, vous nous avez apporté un extrait, je vous l'avais dit, ça c'est extrêmement radiophonique. Vous allez nous dire ce que nous allons entendre là, le premier extrait.
Quelques cloches.
Que nous venons d'entendre, ce sont les cloches.
Les cloches de l'église de Port-Marly, donc il adorait les cloches, et pour reprendre alors un chant que tout le monde connaît, c'est « Amis, rejoignez-nous sur le chemin », qui n'est pas du tout de Roussel, qui est de Gérard de Rony, qui est malheureusement décédé il y a longtemps, c'est aussi l'auteur de Chartres sonne, et ça rappellera beaucoup de pèlerins de Chartres. Faites sonner ces cloches qui se sont tues, et bien voilà, les cloches de Port-Marly continuent de régner, et j'espère que dans la France entière, toutes les cloches vont se remettre à sonner. Mais après ces cloches, on peut écouter quelques instants le départ du Kyrie de la messe suite harmonisé par Roussel. Alors c'est un enregistrement de Roussel. Donc c'est un enregistrement qui a quelques années.
Donc là, nous venons d'entendre, disiez-vous...
Le début du Kyrie, donc du chant de Roussel. Donc c'est une messe de 8 qui a harmonisé. Donc il a harmonisé le Kyrie, le Gloria évidemment pas de credo, parce qu'il n'y a pas de credo 8, le Sanctus et l'Agnus. Donc cette messe sera à nouveau chantée au château de Versailles, donc dimanche 4 décembre à 17h30.
Alors après cette annonce, je voudrais unir la mémoire de Jean de Roussel à celle d'un abbé de la même génération qui nous a quittés il y a peu, l'abbé Gilles Dubos, qui lui était musicien aussi et qui était fils de musicien. Et il y a là un double événement. Tout d'abord, le 27 novembre, Jacques Dossy, que nous connaissons bien parce qu'il a été à Una Voce pendant un certain nombre d'années, un nombre certain d'années, donnera une conférence sur le père de l'abbé Dubos, Claude Dubos, compositeur, poète, et sa tentative de théâtre chrétien dans les Landes. Donc ça sera dans le cadre des conférences Sainte-Cécile, le dimanche 27 novembre à 17h. Ça a lieu 20 rue Gerbert, Paris 15e. Les places sont limitées, il faut donc prévenir la personne qui organise. Il s'agit de Marie-Vonne Tréguier au 06 81 69 90 04. Guylaine vous redonnera ce téléphone dans deux secondes. Et puis il y aura un peu après la messe célébrée pour le repos de l'âme de l'abbé Gilles Dubosc, qui est décédé donc le 28 septembre de cette année. Elle sera célébrée bien par un fils spirituel du chanoine Roussel et de l'abbé Dubosc, l'abbé Jean-Pierre Boubet. Elle aura lieu le samedi 10 décembre à 18h30 à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Guylaine voulait juste redonner l'adresse de la conférence de Jacques Dossy.
Cette conférence aura lieu le dimanche 27 novembre à 17h, 20 rue Gerbert, Paris 15e, et il faut s'inscrire par téléphone au 06 81 69 90 04.
Et puisque nous évoquons les messes qui sont célébrées pour nos amis, je lis ce communiqué. Une messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Jean Ferré, de Serge de Bekech et de Dominique Paoli et tous les défunts de Radio Courtoisie le samedi 26 novembre, c'est-à-dire samedi prochain à 11h à Saint-Eugène, 4 bis rue Sainte-Cécile, dans le 9e arrondissement. Nous revenons au chanoine Roussel. Vous nous avez, pour conclure en beauté, mais vous allez nous mettre en valeur, vous nous avez apporté chez nous, soyez reine.
Oui, alors donc je disais que le chanoine Roussel harmonisait des chants populaires. Oui. Il l'a fait sur un Christus Vincit, mais en relation avec l'abbé Kunk, qui était de mémoire à Strasbourg. Et donc c'est important pour la transmission de la foi et aussi la piété. Ça porte les foules et une belle polyphonie avec un contre-chant, c'est toujours sympathique. Alors il n'y en aura pas à la messe du 4 décembre 17h30 au château de Versailles. Puisqu'on a plutôt axé sur les motets de Michel Richard de Lalande, mais il y a quand même cette messe alternée. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'en région parisienne, la musique religieuse dans nos chapelles n'est vraiment pas morte. Il y a de la relève, et c'est ça qui est très important. Aussi bien, je vois à Port-Marly, il y a une chorale de qualité avec Jean-Baptiste Vrillon. Sur l'école Saint-Dominique, il y a deux maîtrises, une de filles, une de garçons, avec des gens très compétents, Bénique Giraud ou Mathieu Baudin. À Versailles, Rogatien vient de reprendre des petits chanteurs de Saint-Charles qui avaient été créés par un autre résistant, prêtre résistant, le père Morandi, qui a fait beaucoup de choses et qui a été après secondé par Hélène Nougueret. La famille Nougueret était une des familles importantes et nombreuses de Port-Marly. Et donc c'est ça qui est important, et de réunir les vieux qu'on connut, les vieux comme moi, qu'on connut Jean Roussel, de réunir des gens qui sont des héritiers du Jean Roussel, c'est essentiel pour pouvoir transmettre la foi et dans le beau, puisque la musique religieuse et la musique sacrée, c'est vraiment le passage entre le ciel et la terre en étant sur terre. Mais les notes et les gammes et les harmonies, surtout quand on a un lieu comme le château de Versailles et la chapelle, je crois qu'il faut vraiment rendre hommage.
Il faut d'ailleurs le rappeler, magnifiquement restauré à l'extérieur. Il y a même un article qui est paru dans Nouvelle Chrétienté, et c'est une splendeur. Enfin, c'est vraiment un acte de foi qui était posé par les architectes. Et il faut vraiment se rendre là. Versailles, ça n'est pas que le roi soleil. C'est d'abord le roi des rois et après le roi soleil.
Oui, puis en plus, c'est une architecture qui est quand même assez atypique. Et c'est une chapelle qui est très imposante, et il n'y a pas énormément de châteaux royaux. Alors, certains disent qu'elle aurait dû être au centre du château, c'est une vieille histoire. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de familles se sont soit maintenues la foi, soit se converties, et beaucoup de gens, grâce au château de Roussel, iront au ciel. Je crois que tout le monde doit essayer d'être... Mais il n'est pas le seul, je crois que c'est important de toujours prendre hommage à tous ces prêtres qui nous ont aidés tous les dimanches et qui avait vraiment un sens de la liturgie qu'il faudrait réformer. Donc moi, j'aimerais bien qu'il y ait une très belle réforme liturgique et qui touche aussi les aspects du sacré. Je pense que l'abbé Laurent, ce sera peut-être un sujet d'une prochaine fois.
Certainement, certainement. Alors vous savez que je vais émettre tout de même un vœu. Je l'ai déjà émis lorsque vous êtes venu la fois précédente, toujours pour annoncer la messe au Château de Roussel. Il est enterré au cimetière de Villeneuve-Saint-Georges et je pense qu'il va falloir un jour organiser une cérémonie sur la tombe, venir...
On va y aller tous les deux.
Exactement, et faire un dépôt de gerbe et surtout des prières. Et puis, rappelez-nous simplement à Notre-Dame de Consolation, on peut répéter avec vous quel jour, quelle heure.
Le chœur frangélico, qui a répété pendant très longtemps à Saint-Nicolas, répète depuis plusieurs années un drame de la Consolation, tous les mercredis à 20h15. Donc 20h15, 22h. Alors le rythme de frangélico, qui a souvent évolué, on chante une messe de temps en temps, aussi bien la Consolation, on chantera une messe au début janvier à Saint-Nicolas. On organise de temps en temps des concerts spirituels, ça demande beaucoup de travail. Et puis personnellement, comme d'autres, on chante assez souvent le dimanche à Notre-Dame de la Consolation, avec là aussi des plus jeunes, donc c'est toujours passionnant, ils s'entendent très bien et c'est dynamique. Donc je rends hommage à notre cher ami Bevan qui est là pour chanter du grégorien, mais qui chante aussi de la polyphonie, assez anglais. Donc,
c'est ça qui est merveilleux.
C'est l'entente.
C'est catholique, il est anglais, vous êtes français, mais vous êtes d'abord catholique, et c'est ça.
Donc ce qui est important, c'est de travailler en équipe pour la gloire du bon Dieu.
Exactement. Alors nous avons beaucoup parlé grâce à vous, Eric Dutrevant du Jardin de Roussel, on va le laisser parler maintenant, ou plutôt on va le laisser chanter. Eh bien, nous entendions donc ce cantique harmonisé par le Johann Gaston Roussel pour le repos de l'âme duquel sera célébré au château de Versailles, où lui-même a célébré pendant si nombreuses années. La messe traditionnelle le dimanche 4 décembre à 17h30. Et si l'on veut avoir des renseignements, on peut aussi faire un petit courriel à merlette, M-E-R-L-E-T-E, 78@gmail.com.
Et surtout pour les anciens choristes ou des gens qui veulent chanter, c'est encore temps. Pour les bons musiciens, ils peuvent très bien déchiffrer du Lalande facilement.
Parfait, un grand merci.